tiens à préciser que je fais une pause en plein milieu de mes aventures à Poudlard et que le prochain mois, je risque de ne voir rien en série et film parce que je vais être trop occupée avec vos podcasts.
Oui, ou alors tu vas revoir tous les Harry Potter, tous les Animaux Fantastiques, et tu pourras nous parler de ça.
Ouais, après, je sais pas si ça compte, les revisionnages, je crois pas qu'on a fini.
Non, c'est vrai. Bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy. Avez-vous une tasse de café, thé, ou je sais pas trop ce qu'on va pouvoir boire en mai, parce que c'est censé être le printemps, mais il fait quand même très froid et il pleut. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et on revient avec un zapping.
Oui, et franchement, pour l'instant, on est plutôt pas mal au niveau de la régularité de ce zapping.
Ouais, donc même si ce zapping là arrive relativement tard, entre guillemets, en mai, on va parler de nos visionnages d'avril, enfin en tout cas de ce qui est sorti en avril, qu'on a vu
c'est ça.
Ces dernières semaines, moi. Voilà, donc on a pas mal de choses. À chaque fois, on se dit, oh, de temps en temps, on va peut-être faire des zappings un peu courts ou on n'aura pas grand-chose à dire. À chaque fois qu'on fait la liste... Je me rends compte que non, ça va, on a de quoi
c'est
faire.
C'est clair, je sais même pas où je passe tout mon temps, je me dis j'ai regardé tout ça déjà. Mais en fait, ce qui est pas mal, le fait de lister comme ça pour les zappings, c'est qu'il y a des choses, je regarde et j'oublie que j'ai regardé et je me dis ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça. Et c'est pas plus mal en fait, c'est un bon.
Bah ouais, parce que même moi où j'ai littéralement passé 2 semaines sans rien regarder du tout, du coup, je me suis dit, bon, bah, pour le zapping, mais avant, pareil, j'avais pas un rythme très intense. Pour le zapping, je vais pas avoir grand chose à dire et en fait. Bah, j'ai quand même des choses et des choses dont j'ai envie de parler, donc tant mieux.
Bah moi, il y a des choses dont j'ai hâte d'avoir ton avis parce que j'avais envie de le voir et il y avait un petit truc qui faisait que je regardais autre chose à la place. Et du coup, ouais, pour certains contenus, j'ai hâte de t'entendre.
Et ben, on va commencer tout de suite avant ça parce qu'on a vu toutes les deux au cinéma.
Ouais.
Et le premier film, alors là, ça remonte un petit peu du coup.
C'est clair.
C'est Mon Crime, qui est de François Ozon, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Qu'on est allé voir toutes les deux, alors pas ensemble, chacune de notre côté. Bah, j'en ai un bon souvenir, hein, même un bon mois, un mois et demi plus tard, je me souviens que c'était vraiment fun. Donc c'est une histoire de jeune actrice qui a un peu du mal à percer et qui se retrouve accusée du meurtre d'un producteur chez qui elle a eu un rendez-vous qui s'est mal passé pour travailler sur un film où elle a été agressée sexuellement par ce producteur et ça se passe dans les années 30, je crois.
C'est ça.
Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est son procès avec sa meilleure amie qui est avocate et où ils réussissent à un peu retourner la situation au nom du droit des femmes et de la légitime défense, etc. Mais tout ça traité de manière assez légère, fun et comment dire. J'allais dire irrévérencieuse un peu, enfin
oui.
ça renverse un peu les codes où on se dit oh là là c'est, enfin je crois que t'avais le même a priori aussi quand j'ai vu le pitch, t'es genre parce qu'on sait pas trop si elle ment ou pas et du coup c'est joué un peu genre elle profite de la situation et donc se dire une victime qui profite de la situation pour contre un homme pour détruire sa carrière etc. Ça rappelait un peu des souvenirs un peu problématiques et en fait c'est tourné de manière très très drôle et les personnages féminins sont très fun et les personnages masculins sont tous nul. Ouais. Et c'est du coup très jouissif de les voir aussi nuls et aussi ridiculisés. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, moi aussi, comme toi, j'avais un peu peur. Puis j'avais lu des critiques un peu misogynes, enfin, comme quoi c'est un film un peu misogyne. Donc, ça me faisait un peu peur au début. Et je sais que toi, t'as été le voir, t'as adoré. Ma maman a été le voir et m'a dit, oulala, c'est un petit bijou ce film. Et je me suis dit, bon. Si vous deux, vous ne l'avez pas trouvé, je me dis, je fonce. Et effectivement, en fait, je vais pas spoiler en disant si elle ment ou si elle ment pas, mais au final, il y a quand même un message assez féministe derrière et c'est pas du tout contre les femmes et contre tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'humour et le côté très, très théâtral. Et j'ai lu que c'était tiré.
C'est une adaptation.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et ça se sent. Et en fait, j'aime beaucoup. Au début, c'est un peu étrange parce que vraiment, dans leur dialogue, on se croirait sur une scène. Et donc, via un écran, moi, j'ai eu un petit moment de, oula, c'est bizarre. J'ai l'impression que, pas qu'ils jouent mal, mais un peu comme s'ils récitaient vraiment un texte. Et au final, c'est le style qui veut ça. Et c'est hyper sympa. C'est frais. Moi, je le recommande fortement s'il passe sur Canal ou sur une plateforme. Bon, il est plus au cinéma, hein, puisque, mais là, mais n'hésitez vraiment pas à le voir.
Ouais, je suis d'accord. Autre film français qu'on a vu toutes les deux.
Toujours pas ensemble.
Mais toujours pas ensemble. C'est évidemment le gros blockbuster de la saison. C'est Les Trois Mousquetaires qui, pour le coup, je pense, est encore au cinéma.
Oui, oui, j'ai vu. J'ai même hésité à aller le voir une deuxième fois.
Ah, carrément. C'est vrai qu'on n'a trop parlé de Trois Mousquetaires toutes les deux.
Non.
Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup?
Donc, moi, Les Trois Mousquetaires, j'y suis allée parce que François Civil. Clairement, ouais. voilà, je suis une grosse fan de François Civil, que j'aime énormément. Mais bon, il y avait aussi Romain Duris, Pio Marmaille, enfin, voilà, des acteurs que j'aime beaucoup. Bon, il y a aussi Vincent Cassel, que j'apprécie pas spécialement, mais c'est pas à cause de son personnage, c'est à cause de sa personnalité en tant qu'homme, que je n'apprécie pas. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à faire la distinction entre homme et artiste, hein, faut le savoir. Donc, quand j'aime pas vraiment une personne à cause des idées qu'elle défend ou des propos problématiques qu'elle peut dire, dans un film, j'ai du mal à voir autre chose. Donc, après, il jouait très bien, j'ai aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas la personne que je regardais particulièrement et qui m'intéressait le plus dans le film. En tout cas, il y a un casting vraiment 5 étoiles. On retourne également Eva Green. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que moi, je crois pas avoir lu le roman, donc je n'ai aucune idée du scénario, de ce qui va se passer. Vraiment, je partais de zéro complètement. Les seules choses que j'ai vues, c'est Albert, le cinquième mousquetaire.
D'ailleurs, il n'y a pas Albert dans le film. C'est un scandale.
Je vais avoir le générique en tête toute la journée maintenant. Mais du coup, j'ai vraiment aimé découvrir cet univers, découvrir l'histoire, les personnages, cette espèce d'amitié vraiment qui prend. Alors, elle prend un peu rapidement. Je m'attendais quand même, mais tu sais, tu sens que c'est un événement qui fait que l'amitié prend, donc ça. C'est pas choquant non plus. J'ai beaucoup aimé aussi avoir cette espèce de film de KPDP français. Et je me suis dit, en fait, j'ai vraiment un blockbuster français. Et c'était cool, quoi, parce que c'est pas souvent, hein, clairement. Et j'ai bien aimé aussi toute la partie un peu jeu de pouvoir, guerre de religion, qui est pas non plus hyper poussée, mais qui est bien présente. Et le rôle de Louis Garrel en roi, qui est excellent. Enfin, vraiment, ça a été un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup Louis Garrel aussi, hein, mais ça a été un de mes coups de cœur. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce film. Et il y a un dernier point, j'en avais parlé lors d'une chronique de Post Popcorn. J'ai été assez impressionnée, moi, du réalisme. En fait, du fait que quand ils se battent, ils sont essoufflés, que quand ils sont sales, ils sont vraiment sales. Enfin, et puis qu'ils sont sales quasiment tout le temps, parce que c'est vrai qu'à l'époque, oui, ils étaient sales tout le temps. Et je trouvais que c'était plus réaliste que certains autres films à ce niveau-là, en tout cas. Après, il y a un point que j'ai pas aimé, c'est au niveau des bagarres, ça tournait trop. Je trouvais qu'ils tournaient trop la caméra. Je comprends, ouais, hein, l'idée de faire un plan séquence, mais trop proche, trop à bouger tout le temps. Thibaut avait la nausée à côté de moi. Moi, ça allait, mais je me suis dit, vous en faites trop. Des fois, j'ai envie juste de me poser et d'observer la bagarre, quoi, la scène d'action. Et voilà, c'est mon seul petit bémol de ce film, mais j'ai vraiment adoré. Et toi?
Ouais, alors même petit bémol, effectivement, parce qu'en plus, moi, j'adore les scènes, les scènes de combat à l'épée, bien chorégraphiées et tout ça. Et là... Là, effectivement, ça rendait pas très, très bien. Je sais pas si c'est à cause des chorégraphies ou de la manière dont c'était filmé, mais bon. Enfin, après, on sent les impacts, donc ça, c'est pas mal. Effectivement, c'est assez réaliste. Moi, j'ai adoré le film aussi. J'ai trouvé qu'il était hyper bien rythmé. Vraiment, ça, les choses s'enchaînent sans que ce soit épileptique, quoi. Ouais. L'histoire, elle se tient bien. Il y a plusieurs intrigues qui se mêlent et qui se retrouvent. Enfin, vraiment, c'est bien fait. Alors, j'ai pas lu non plus les romans, même si je connais bien la trame et que j'en ai vu beaucoup d'adaptations. Donc, j'ai reconnu les éléments principaux du mythe, en fait, hein, des Trois Mousquetaires. Mais ce que j'ai bien aimé, alors du coup. Comme j'ai pas lu et que j'ai vu beaucoup d'adaptations et qu'à chaque fois les adaptations font plus ou moins la même chose ou alors avec des différences assez minimes, là j'ai quand même été surprise par le scénario. Il y a des choses où je me suis dit ça c'était dans l'histoire, je me souviens pas, mais j'ai trouvé que c'était des super bonnes idées, et pour en avoir discuté avec ma mère qui je crois a lu le bouquin, pareil, elle a été aussi un peu surprise, mais comme moi elle dit, mais après on a tellement vu d'adaptation qu'on
sait plus ouais,
en fait qu'est-ce qui vient du matériel source ou pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment, au niveau du scénario, je trouve qu'il est hyper bien fait, malgré le fait que voilà, bah, on l'a vu 10 000 fois, l'histoire des joyaux de la reine avec le comte de Buckingham, etc. Mmh. Enfin voilà, je connais par cœur tout ça. Mais ça, c'était vraiment cool. Au niveau du casting, j'étais aussi très contente du casting. Ils sont tous peut-être un peu vieux pour leur personnage,
ah, c'est ce
même
François
Civil qui a quand même notre âge, alors qu'il est censé jouer un ado, enfin quelqu'un qui est en fin d'adolescence quoi. Donc même s'il le joue bien, le côté un peu fougueux et plus jeune que son âge, mais c'est, enfin quand il y a le roi qui l'appelle ah ben c'est un gamin, bah non c'est pas un gamin, il a 30 ans quoi. Enfin, c'est... Nous, on peut plus être appelé gamin à notre âge, et ça se voit quand même qu'il a pas 17 ans ou 18 ans, quoi.
Ouais.
Mais bon.
Après, moi, j'ai eu la sensation, quand tu regardes les mousquetaires, qu'ils étaient tous très âgés. Et du coup, ça donnait, quand ils l'appelaient gamin, moi, je l'ai pas vu qu'en mode tu es un gamin, t'es jeune, mais en mode par rapport aux autres. Moi, mes mousquetaires, c'est des gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience, qui sont âgés, qui sont matures. Toi, à côté, t'as 30 ans, t'as peut-être fait 5 ans, tu vois, enfin, je l'ai vu comme ça, tu vois. Parce que tout le reste du casting était assez âgé. Mais
Vincent Cassel est vraiment très âgé pour son rôle, mais je trouve qu'ils l'ont bien transcrit dans la manière de le présenter comme un vétéran. Je trouve que ça et puis par rapport à l'intrigue de son personnage, ça collait bien qu'il soit vraiment plus vieux. Les autres, bon, c'est ça passe, enfin après ils sont un peu moins mis en avant. Même si Romain Duris est flippant en Aramis, franchement, il y a des moments genre waouh, j'attendais pas à ça. Mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé aussi, et pour les mêmes raisons que toi, et voler deux dans quelques mois. Donc,
j'ai trop
hâte de voir ça.
Ouais, mais pareil, j'ai vraiment vraiment hâte, et ouais, ça va être je pense que ça va être une réussite aussi. Enfin, j'espère. Il n'y a pas de raison, mais.
Et une très chouette Clémence aussi comment elle s'appelle. Lina Koudry.
C'est ça.
Que j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve qu'elle est très, très bien dans ce rôle. Et le rôle est bien mis en avant. C'est pas forcément évident pour le rôle de Constance. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Et son duo avec François Civil, ça marche à fond.
Attendez de voir bientôt, je crois que c'est cet été, Zone à défendre sur Disney+. Pareil, on retrouve avec tous les deux. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu en séance test et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Bon, peut-être parce que c'était au cinéma et que je découvrais, que je découvrais le film, parce qu'il y avait François Civil, peut-être que sur Disney+, voilà, ça va être juste, on va peut-être pas ressentir la même chose, mais j'ai hâte de le revoir, du coup, pour en parler.
À suivre dans un prochain zapping. Et les autres films qu'on a vus, c'était, on les a pas vus toutes les deux.
Non.
Toi, t'en as vu pas mal. Est-ce que tu veux commencer par un de tes films?
Okay. Oui, alors je vais commencer par une comédie romantique, puisque vous commencez à me connaître et que je ne peux pas passer à côté des comédies romantiques qui passent au cinéma. Enfin, quoique, attention, pas dans ce zapping-là, mais le mois prochain, je vais vous parler d'une comédie romantique que j'ai failli aller voir au cinéma, que je n'ai pas pu aller voir pour je ne sais plus quelle raison, que j'ai vu sur Netflix et qui est catastrophique. Je tease l'épisode du mois de mai. Donc là, non, j'ai vu une comédie romantique qui était vraiment très 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 sympa. Ça s'appelle « Et l'amour dans tout ça ».
Ouais, j'avais failli aller la voir, enfin ça me tentait en tout cas.
Bah moi j'ai été la voir pour deux raisons. Parce que ça parle d'amour. Et parce qu'il y a Emma Thompson et Lily James que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs effectivement elles jouent un duo mère-fille et j'ai beaucoup beaucoup aimé leur duo. C'est un film qui est un peu passé, je trouve, sous les radars. Moi, il est passé dans très peu de salles autour de chez moi et je crois qu'il est passé que au Hall à Châtelet. Enfin, il n'était pas au MK2, il n'était pas au Méliès. Enfin, donc j'étais contente d'être tombée dessus et c'est Télématin qui en a parlé. Et donc merci Télématin parce que sinon je serais totalement passée à côté. Et donc ça parle d'un duo d'amis d'enfance qui ont une vision assez différente de l'amour. Et on a Zoé qui, elle, enchaîne les plans d'un soir, les rendez-vous ratés, etc. Et on a son meilleur ami, Kaz, qui est d'origine pakistanaise et qui, lui, veut vraiment rencontrer le grand amour et qui décide de suivre ses parents, ce qu'ils ont fait, et de faire un mariage arrangé. Alors, ils appellent pas ça un mariage arrangé. Enfin, ils en rigolent justement. Ils disent que c'est un mariage assisté. Donc, où c'est pas voilà les parents qui imposent quelqu'un. Genre voilà, tu vas te mettre avec un tel, tu vas te marier avec un tel. Mais c'est des rencontres entre familles ou entre c'est pas, on va pas dire une association, mais voilà des espèces de groupes qui vont dire bah voilà des hommes qui veulent se marier, des femmes qui veulent se marier pour quand même qu'ils essayent de trouver des points communs, etc. Mais ils se marient sans être sortis ensemble, sans se connaître ou quoi que ce soit. Hein. Ça reste leur choix et leur décision. Mais c'est pas lié à l'amour, quoi, entre guillemets, d'où le titre. Et donc Zoé qui fait des documentaires va suivre son meilleur ami dans cette aventure pour essayer de montrer voilà à quoi ressemblent les mariages assistés de nos jours, derrière un peu tous les clichés qui peuvent se cacher, et va le suivre notamment au Pakistan puisqu'il va se marier avec une Pakistanaise, donc ils vont partir faire le mariage là-bas. Et en fait, j'avais un peu peur de la tournure. C'est vrai que quand on le voit, on se dit tout de suite, bon bah voilà, les deux meilleurs amis vont tomber amoureux, etc. Donc dans tout le film, on se dit que c'est assez prévisible. Je vais pas spoiler à la fin, mais ça reste un film prévisible. Mais à côté de ça, il m'a quand même surpris sur certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, comme le racisme, la pression d'être en couple après 30 ans, des histoires familiales, notamment liées à la religion musulmane et au fait d'accepter ou pas dans la famille quelqu'un qui a pas la même religion que soi. Et puis je trouve que dans les comédies romantiques, on a souvent quand même un des deux qui est catholique, il y a des mariages à l'église, etc. Mais un mariage pakistanais, un héros qui est musulman et qui est montré, mais sans non plus, tu vois, en faire trop. Par exemple, juste ils sont à table, ils discutent, et puis au bout d'un moment, bah, c'est l'heure de la prière, il part 2 minutes, et puis quand il revient après, enfin... Tu vois, ces petites choses-là, je trouve que ça reste quand même... c'est bien, en fait. C'est montrer aussi la vie et pas qu'une certaine vision. Sans tomber dans les clichés, c'est très rafraîchissant. Et voilà, je pense que c'est un film quand même qui est sympa, parce que même si le scénario est assez prévisible et feel-good, il y a quand même toute une partie derrière un peu plus profonde. Et moi, je sais que j'ai été assez émue et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Ouais, bah, je pense que c'est typiquement le genre de film que si j'ai l'occasion, je le rattraperai. Mmh. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Enfin, ça, tu donnes envie. Hein.
Ouais, bah, tu sais, quand c'est des comédies romantiques, genre téléfilms TF1 qui sont pas voilà, exceptionnels, je suis la première à le dire. Et là, c'est vrai que j'étais agréablement surprise du film. Et toi, t'as vu un film que je rêvais d'aller voir, qu'on aurait dû aller voir ensemble, qui est encore au cinéma, donc peut-être que je rattraperai ça, mais faut que je vois.
Oui, alors un film, alors là on change d'ambiance, donc un film français de Jeanne Herry, qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », donc un film, alors déjà je l'annonce, hein, qu'il faut préparer les mouchoirs entre guillemets, et puis il faut être pas trop mal psychologiquement pour le voir et faire gaffe à certains triggers. Donc voilà, si vous avez déjà vécu ou vos proches ont vécu des agressions, cambriolages, ce genre de choses, ça peut réveiller certains traumas, puisque c'est un film qui traite de la justice restaurative. Donc ça c'est une démarche qui commence à être mise en place en France, qui consiste à confronter en fait des auteurs d'infractions, délits ou crimes avec des victimes des mêmes crimes qu'ils ont commis en fait, pour qu'il y ait une discussion, donc pas de leurs propres victimes, mais mais de d'autres victimes pour qu'ils soient confrontés à qu'est-ce que ressent une victime de délits ou crimes qu'ils ont commis, et qu'à l'inverse les victimes puissent écouter, parler, échanger avec les détenus, enfin parce que ça se passe souvent ça se passe pas forcément d'ailleurs en prison, ça peut se passer dans le milieu ouvert comme on dit dans la justice, et mais du coup c'est hyper hyper intéressant comme film parce que Jeanne Herry a fait énormément de recherches. Elle a bossé avec l'administration pénitentiaire, elle a bossé avec les services d'insertion et de probation. Et du coup, ça se sent, c'est hyper réaliste. Et les dialogues sont très, très, très bien écrits. Et tout sans en fait être trop... Enfin, c'est pas froid, c'est pas parce que c'est réaliste que c'est froid, quoi. Mmh. On est vraiment pris dans... Parce que les acteurs sont excellents aussi, et on est pris dans les situations, dans les dialogues, dans les confrontations, etc. Et c'est vraiment... C'est vraiment très fort. Donc, en gros, il y a deux situations de justice restaurative en parallèle. Il y en a un qui se fait donc en groupe en détention, qui sont plus autour justement des cambriolages, vols à l'arraché, braquages. Et donc, voilà, avec des détenus et des victimes. Et il y a une autre histoire en parallèle. Et là, pour le coup, gros trigger, autour des agressions sexuelles, puisque c'est une jeune femme qui demande à être confrontée à son frère qui a abusé d'elle pendant leur enfance. Donc c'est ouais. C'est hyper dur, mais hyper intéressant, et il réussit à s'adresser à une espèce de suspense aussi sur qu'est-ce que va être l'issue de la confrontation. Donc c'est très bien, c'est un bel hommage aussi aux travailleurs, aux conseillers d'insertion de probation qui font la justice restaurative. On les suit, en fait, c'est à travers eux qu'on est guidé dans le film, à travers leur travail, les relations entre collègues, comment ça a un impact, c'est un sous-texte, mais comment ça a un impact aussi sur leur vie privée de faire ce type de travail. Et donc, bah, pour moi qui travaille maintenant à la direction de l'administration pénitentiaire et qui a pu aller en détention, qui a pu discuter avec des CPIP, qui a pu échanger autour du film avec des collègues qui sont spécialistes de la justice restaurative. Voilà, tout le monde n'a que des compliments à faire sur ce film. Et je le conseille à tous ceux qui sont prêts à ce type de sujet, parce que c'est quand même, c'est quand même pas facile. Voilà.
Non, il faut que je le voie.
Et petite anecdote, donc c'est tourné en partie dans un centre pénitentiaire, et c'est le premier centre pénitentiaire que j'ai visité, donc j'ai reconnu quand j'ai vu, j'ai dit, ah mais je connais cet endroit, donc voilà.
C'est sympa. Enfin, je sais pas si c'est sympa de visiter un centre, mais oui, sympa, ou voilà, c'est pas juste... le mot, mais c'est.
Mais ouais, non, en tout cas, très, très beau film et un casting excellent, hein, puisqu'on a, Adèle Exarchopoulos, je ne sais jamais prononcer son nom, Leila Bekti, Miu Miu, ouais, qui sont toutes excellentes. Voilà.
Super. Ouais, j'ai vu qu'il était encore en salle, donc il faudrait vraiment que je me bouge avant qu'il parte. Eh bien, moi aussi, j'ai vu un film avec Leila Bekti. Elle est partout en ce moment.
C'est vrai.
Il s'agit de C'est mon homme de Guillaume Bureau, donc avec Leila Bekti, Karim Leclou et Louise Bourgoin. Je vais être assez rapide parce que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas un coup de cœur, je le reverrai pas, je suis pas sûre à 100% de le recommander. En fait, j'ai trouvé que l'histoire de base était hyper intéressante puisqu'il s'inspire d'une histoire vraie. C'est un homme qui, après la Première Guerre mondiale, a perdu totalement la mémoire. Et du coup, son médecin essaye de faire des annonces pour retrouver s'il a une vie, une famille, etc. Enfin, voilà, de retrouver ses proches. Et il y a deux femmes qui vont se revendiquer la femme de cet homme. Chacune va apporter des preuves. Et en fait, voilà, on va essayer de suivre cette histoire et essayer de deviner, de comprendre, le voir, essayer de retrouver sa mémoire et essayer de voir qui dit la vérité. Enfin, on sent vraiment, en plus, c'est ça qui est horrible, la sincérité des deux femmes, quoi. Et elles ont rien à y gagner, hein, à part peut-être le fait de psychologiquement de se dire mon mari n'est pas mort. Sinon, elles n'ont. Et c'est pas comme s'il avait beaucoup d'argent ou quoi, c'est vraiment juste... elles sont persuadées que c'est son mari, chacune. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, donc à part l'idée générale, c'est la photographie, les décors, on est dans les années 20, c'est hyper sympa, c'est vraiment bien fait. Mais j'ai trouvé que le scénario était quand même un peu lent, un peu paresseux, qu'il se passait pas grand-chose. Vraiment, il y a très très peu de rebondissements, quoi. Alors, je m'attendais pas non plus à des rebondissements comme un film d'action, mais à des petits twists ou voilà des choses. Mais en fait, il se passe pas beaucoup de choses. Il y a pas forcément de tension jusqu'au bout, quoi. Le final est assez intéressant, mais je le trouve pas bâclé. Mais j'aurais préféré avoir un peu plus d'explications et. Et bon, je veux pas spoiler, mais je le recommande quand même s'il passe voilà, sur une plateforme ou quoi. S'il était en salle et que vous payez 15 euros la place, je suis pas sûre que c'est le film que je vous aurais dit d'aller le voir en premier. Voilà.
Moi, j'avais été intriguée par la bande-annonce. Je trouvais que l'idée était... Enfin, la bande-annonce était hyper bien faite et c'était hyper prenant, quoi. Donc, mais c'est vrai que, bon... Après, il faut que la fin soit satisfaisante, quoi. Pour,
bah, elle l'est, hein. Enfin, il conclut d'une manière où tu te dis, ah, c'est beau. Enfin, ok, d'accord. Ouais, il y a une vraie fin, mais je trouve qu'elle va un peu trop vite par rapport au reste du film qui est un peu lent. Enfin, je sais pas. Il y avait un. J'ai vraiment pas envie de spoiler, mais bon, je te le dirai en off.
D'accord.
Pour parce que je sais que tu vas pas forcément le regarder, donc.
Bah oui, à moins d'avoir l'occasion un jour, mais...
Bon, t'auras oublié d'ici là.
Oui, probablement.
Non, mais en vrai, j'ai quand même passé un bon moment et j'ai bien aimé, hein, mais ouais, il manque peut-être un peu de profondeur, un peu de... Mais c'est son premier film à Guillaume Bureau. Donc je trouve que c'est quand même très prometteur. D'accord. Parce qu'il a quand même réussi à faire quelque chose d'assez solide.
Super. Alors là, ouais, le film que j'ai vu, c'est loin d'être son premier film, puisque c'est The Lost King de Stephen Frears. Donc Je sais pas quel est le terme. Bon, c'est un vieux réalisateur anglais qui fait plein de trucs que vous avez certainement vu. Voilà. Et donc The Lost King, c'est donc voilà un petit film anglais avec un réalisateur connu, mais qui a vraiment pas de grandes prétentions, que j'ai beaucoup aimé. Bon, je me doutais que j'allais aimer, hein, puisque c'est une vibe très anglaise avec un scénario très mignon entre guillemets. Enfin, en gros, le pitch, c'est on suit une femme, voilà, une mère de famille un petit peu pas paumée, mais qui a une maladie chronique, en fait, de fatigue chronique, et qui est un petit peu décalée, qui est très obsessive sur certaines choses. Quand elle se met dans un truc, elle y va à fond, quoi. Enfin, elle a une personnalité, moi, qui m'a pas mal touchée. Et en fait, elle se prend de passion pour le roi Richard III, avec cette obsession que la manière dont il est décrit dans Shakespeare, comme étant le pire roi horrible qui a fait tuer son neveu, etc. Enfin, et bah que c'est faux, qu'il a été injustement calomnié, et qu'elle se donne un peu comme mission, et puis elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a toute une petite société des fans de Richard III qui veulent redorer sa mémoire. Et surtout, il y a un grand mystère autour de Richard III, c'est que on ne sait pas où est sa tombe, et c'est dans les croyances entre guillemets populaires, on pense que son corps a juste été jeté dans une rivière et qu'il a pas de tombeau. Ah, j'ai pas précisé, c'est une histoire vraie.
Ah ouais.
Tout le film est inspiré d'une histoire vraie. Oui oui, puisqu'en fait cette femme en fait va se donner la mission de retrouver la tombe de Richard III, et voilà. Elle n'est pas du tout historienne de base, donc en fait, elle fait toutes ses recherches de son côté. Elle va essayer de rencontrer des spécialistes du sujet pour qui vont l'aider, voilà, sans trop forcément la prendre au sérieux. Et au final, par sa passion et par l'aide aussi qu'elle va réussir à avoir, et ben elle va réussir à trouver l'emplacement de la tombe et à lancer des fouilles. Bon, je vous spoil la fin, mais bon, c'est une histoire. C'est une histoire vraie qui est assez récente. Hein, ça s'est passé en 2012, et bon, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc voilà, ces fouilles ont été relativement connues entre guillemets. Enfin bref, donc spoiler de la fin, elle trouve le tombeau, mais du coup c'est toute cette histoire là et qui est faite de manière très très. Je sais pas comment dire, c'est bienveillant, ouais, c'est ça. C'est bienveillant envers les personnages qui sont un petit peu des misfits, soit qui sont un petit peu en dehors des clous. Et du coup, le personnage principal est joué par Sally Hawkins, quand vous verrez sa tête, vous allez probablement dire « Ah, mais j'ai déjà vu quelque part parce qu'elle a fait beaucoup de films, peut-être plutôt dans des rôles secondaires, mais là, l'avoir dans un premier rôle, c'est très, très chouette. » Et moi aussi, surprise en voyant le film, je ne m'y attendais pas, il y a aussi Harry Lloyd qui joue... alors, Harry Lloyd, j'ai vu dans Doctor Who et surtout dans Game of Thrones, il fait le frère de Daenerys dans les premières saisons de Game of Thrones. Mais j'adore cet acteur, même s'il joue un rôle horrible dans Game of Thrones. Et là, il joue en fait un acteur qui incarne Richard III au théâtre et qui après devient une espèce de fantôme de Richard III que l'héroïne Philippa voit en fait et qui en fait elle imagine Richard III qui est là un peu pour la guider entre guillemets et pour l'encourager même s'il dit rien quoi, il apparaît et j'ai trouvé c'était une super idée et ça rend trop bien, c'est très touchant et voilà, il y a aussi autre acteur de Game of Thrones, il y a Mark Addy qui jouait le roi Robert, qui est aussi qui joue un archéologue dans le film. Bref, il y a plein d'acteurs anglais que vous allez certainement reconnaître si vous regardez pas mal de séries britanniques. Donc ouais, super petit film. En tout cas, film qui est fait pour moi, pour mes goûts, que je pense qu'il plaira pas forcément à tout le monde, mais si vous aimez ce genre de vibe très très anglaise et très très mignonne et bienveillante, je conseille.
Ouais, et il me tentait pas du tout, mais beaucoup de collègues m'en parlaient en disant « Ah, j'ai vu ça, il est vraiment super !» Et je l'ai vu dans l'avion, mais du coup, j'ai pas regardé parce que j'avais d'autres films que je voulais voir. Il était dans ma liste, hein, mais c'était pas dans mes priorités. Et tu le vends bien, donc je suis un peu déçue de pas l'avoir vu dans l'avion.
Non, puis bon, ça permet de découvrir aussi
l'histoire, ouais.
Enfin, cette histoire qui est... et de redorer son... Enfin, de la remettre en avant parce que... Même si cette histoire est connue, elle n'est pas connue et on comprend dans le film pourquoi. Donc ouais.
Ok. Ah ben je.
De toute façon, pour lui rendre.
Prochaine fois que je prends l'avion. Non, d'ici là, il sera ailleurs.
Sûrement.
Alors, je vais être très rapide pour le dernier film que j'ai vu au cinéma parce que je pense que vous avez déjà vu et lu 10 milliards de critiques sur ce film. Il s'agit de Mario, Super Bros, le film. Je crois que ça doit être un truc comme ça, le titre. Enfin, le film sur Mario, quoi, vous avez compris. Non, je crois que c'est Super Mario Bros, le film. Donc, voilà, pour dire vaguement ce dont mon avis sur ce film, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant, je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé ça très fun, très divertissant. L'animation est très très belle, elle est vraiment sublime. Donc tout ça, voilà, gros point fort. J'étais forcément très contente d'avoir tous les persos, Mario, Luigi, Todd, Peach, etc. Parce que moi, je jouais à Mario, donc forcément... voilà quoi, ça marque. J'ai trouvé les univers très bien faits, toutes les refs, voilà, aux jeux vidéo, à tous les jeux vidéo, hein, sur toutes les plateformes. Alors je les ai pas toutes vues, hein, je suis sûre que je suis passée à côté de plein, mais j'ai kiffé effectivement à chaque fois avoir une ref et la reconnaître, et dire aïe. Donc ça c'était très sympa aussi. J'ai trouvé que l'immersion dans le jeu était top. Vous comprenez qu'il y a un mais qui arrive. J'ai juste un bémol. c'est qu'en fait j'ai bien compris que le public de ce film il était double, enfin il y avait deux cibles, il y a la cible enfant et la cible les trentenaires, quarantenaires qui ont joué aux jeux vidéo, donc ça on le sent bien avec toutes les refs, hein, parce que je sais pas les enfants qui vont avoir la ref de la musique de la GameCube quoi, mais du coup j'aurais aimé un peu une double lecture. J'aurais aimé que le scénario, il s'adresse aux enfants et aux adultes, comme les Pixar savent très bien le faire, comme Le Chapoté 2, dont on parlera tout à l'heure, le fait très bien. Et là, j'ai trouvé que le scénario restait vraiment adressé 100% aux enfants. Alors oui, c'est un film pour les enfants de base, mais je trouve que Pixar arrive très bien à avoir voilà, des petites rêves pour les adultes, quelque chose de plus profond. Là, il n'y était pas du tout. Voilà, donc... Je vais pas dire que je suis déçue du scénario, parce que j'ai trouvé ça quand même bien aussi que ce soit pas la princesse en détresse à sauver, tout ça. Enfin, il y a quand même des gros points forts dans ce scénario. Mais je regrette juste ce manque de profondeur, de double lecture un peu adressée aux adultes, sachant que c'est aussi la cible marketing du film. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment et c'est super sympa de le voir au ciné, parce qu'effectivement, l'animation est très belle.
Bah, je comptais le voir. Et finalement, j'y suis pas allée. Il y a eu trop de sorties en même temps et c'était malheureusement c'est passé après les autres. Je crois que c'est sorti quasiment au même moment que Les Trois Mousquetaires.
Ouais, c'est ça.
Et un autre film que j'ai failli oublier de mettre dans la liste et que je viens de rajouter. Je me dis, ah, comment j'ai pu l'oublier. Bref, mais non, ouais, bah, Mario, je sais qu'il passe encore. J'ai envie de le voir. Après, je sais pas si j'ai forcément envie de le voir au cinéma. Mais après, l'animation a l'air cool. Donc, je sais que je passerai un bon moment. Donc, ouais. je le garde en réserve.
Ouais, il va passer un moment encore, je pense.
Ouais, il y a des chances.
Et oui, le dernier film dont tu vas parler, que tu as oublié, je vais le voir cette semaine. Donc, prochain épisode, je te dirai si je suis d'accord avec toi.
Mais oui, bah, on reste dans l'ambiance geek et jeu, mais cette fois-ci pas jeu vidéo, jeu de rôle, puisque évidemment, je vais parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, que je suis allée voir dès qu'il est sorti, parce que j'avais trop trop hâte de le voir. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, j'ai fait une ou deux campagnes de jeux de rôle, donc je sais sur un autre jeu de rôle, donc je connais les codes quand même, mais je pense qu'il n'y a pas besoin forcément pour apprécier le film, parce que moi j'ai adoré, franchement j'ai trouvé que c'était un des il y a eu un autre film dont je parlerai dans le prochain zapping qui pour moi est un peu dans la même vibe des bons blockbusters en fait, qui m'ont un peu ça faisait longtemps que j'avais pas vu des blockbusters devant lesquels je prenais vraiment du plaisir, enfin le blockbuster aussi fun hein, parce que bon, les Trois Mousquetaires je le mets pas dans la même catégorie quoi. Donjons et Dragons, ça se prend pas du tout au sérieux et c'est pour ça que c'est cool. Mais en même temps, même si ça se prend pas au sérieux, c'est fait avec beaucoup de respect pour ce qui peut nous plaire dans un univers de fantasy, quoi. Je vais pas trop raconter l'histoire, je te laisserai découvrir, mais c'est des histoires, voilà, de quêtes qui rassemblent un groupe de personnages et qui sont tous, je trouve, très réussis. Enfin, c'est ça aussi que j'ai aimé, ce côté groupe où chacun a une personnalité très marquée, mais en même temps, ils ont tous leurs défauts et c'est ensemble qui crée une dynamique qui est assez chouette à suivre. Et il y a un casting qui est vraiment top. Je les ai tous trouvés très très cool. Donc on a Chris Pine qui fait des rôles principaux, une espèce de ménestrel qui me faisait penser parfois un peu à Jaskier, donc ça m'a bien plu. Il y a Michelle Rodriguez qu'on a vu notamment dans le premier Avatar, qui faisait celle qui pilotait les hélicoptères là, voilà, et qui fait une barbare qui est vraiment super. Sophia Lillis, que je ne connaissais pas, mais qui fait un très chouette druide. On a d'autres que je connaissais pas, mais qui font des rôles qui sont cool. Hugh Grant, évidemment, qui fait un personnage sur lequel je vais pas te dire grand chose, mais que j'ai beaucoup aimé. Et évidemment.
Ah, mais j'attendais que tu le cites, parce que moi, c'est la raison pour laquelle je vais voir le film.
Alors, ne t'attends pas à le voir pendant tout le film. Hein. Il est là que pendant quelques scènes. Il n'est pas là tout le temps. Mais c'est les meilleures scènes, vraiment. Je l'ai trouvé excellent et parfait dans justement ce côté se prendre en sérieux sans se prendre au sérieux, en fait. Ce côté décalé que j'ai vraiment adoré. Visuellement, c'est pas mal du tout, surtout pour un univers très fantasy qui demande énormément d'effets visuels numériques et tout. Bon bah tout n'est pas, enfin, mais après ça va avec la vibe du film, qu'il y a des côtés un petit peu pas ridicules, mais ni vraiment cheap, mais voilà, c'est pas Avatar clairement, mais bon, on n'attend pas à avoir Avatar devant ce film là. Donc ouais, je crois qu'il a bien marché et j'en suis très contente. Franchement, ça pourrait être je vois bien que ça pourrait être un début de saga, quoi. Enfin, je le vois bien, je les vois bien faire d'autres films avec ces personnages ou dans cet univers. Ça pourrait être le début de quelque chose de très cool. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Même si t'es peut-être moins attaché à ce type d'univers, mais du coup, j'ai hâte de voir.
C'est moins mon truc, mais le film tentait. Donc, moi, j'ai jamais joué au jeu de rôle du tout. Hein, donc, voilà. Mais j'avais envie de voir.
Ouais, quand on joue au jeu, on comprend certains, enfin parce que c'est pas présenté comme une partie de jeu. Ouais. C'est vraiment, on est dans l'univers avec les personnages, mais quand même, quand on connaît comment ça fonctionne une partie de jeu de rôle, ou qu'on a déjà écouté des podcasts ou des lives où ils jouent à Donjons et Dragons, on reconnaît des petites, on dit ah là tel joueur il a fait un mauvais jet de dés et c'est pour ça que ça c'est qui se passe ça, ou alors ah bah là c'est les joueurs qui sont en train d'essayer de faire un plan merdique qui va pas marcher, enfin voilà, c'est ce genre de petits clins d'œil là, mais c'est
de ces références
d'avoir ces, de comprendre ces clins d'œil pour apprécier l'histoire, quoi.
Et ben on va pouvoir passer au film qu'on a vu en streaming.
Oui, bah Netflix, bah j'ai vu un film sur Netflix. Ça faisait longtemps que Netflix me le proposait. Je me suis dit, ouais, allez, effectivement, ça peut me plaire. Donc j'ai vu l'adaptation, donc en film de la comédie musicale Mathilda.
J'avais hâte d'avoir ton avis.
Qui elle-même est une adaptation. Alors, je ne sais pas si une adaptation directement du livre ou une adaptation du film qui est lui-même une adaptation du livre. Enfin bref. Mathilda, il y a eu plusieurs versions. Donc là, c'est la version film de la comédie musicale de West End, je crois, à la base, et qui est aussi à Broadway, probablement, mais c'est West End, je crois, c'est une comédie anglaise, à la base. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu avais déjà...
Non, moi, j'ai juste vu le film Mathilda de quand on était petit, quoi. Enfin, celui-là, je l'ai poncé, hein, je l'ai vu un nombre de fois, je ne compte même plus. Effectivement, j'avais entendu parler qu'ils allaient faire ce film, la comédie musicale. Ça m'intriguait un peu. C'est ce film-là dont j'avais hâte d'avoir ton avis, parce que je ne me suis pas lancée pour une raison. Mm. En fait, il m'en faut peu des fois. Hein. Dans le film, je ne sais même plus de quelle année, ça doit être dans les années 90, il y avait 2-3 passages que je trouvais hyper malaisants. Mais vraiment, par exemple la scène du gâteau au chocolat que je passais, tu vois, parce que vraiment je trouvais que, et je me suis dit c'est des scènes y a pas besoin de ça, et c'est de la, c'est, je sais pas, j'ai jamais aimé, j'ai toujours été très mal à l'aise devant, et quand j'ai vu la bande annonce de ce film sur Netflix, j'ai revu ces scènes qui m'ont perturbée, et du coup je n'ai pas eu envie de le regarder. Peut-être qu'après c'est fait autrement, peut-être qu'effectivement j'ai vu qu'il y avait aussi plus de chansons, etc., parce que comme tu dis c'est adapté de la comédie musicale, donc ça m'a quand même, ça m'intrigue, mais il y a une partie de moi qui n'a pas envie du tout, quoi.
Ah oui, alors c'est vrai que, alors pour ceux qui connaissent pas du tout Mathilda, qui ont jamais lu le livre ou pas vu le film, je pense que ça peut être un peu désarçonnant, parce que pour le coup ça reste très fidèle à l'ambiance de Roald Dahl, et pour nous qui avons quand même un peu grandi avec Roald Dahl, hein, que ce soit Mathilda, Charlie et la chocolaterie, tout ça, voilà, Roald Dahl, c'est fait pour être malaisant, en fait. C'est le côté un peu cruel et méchant qui fait partie du truc, quoi. Et moi, ce que j'avais un peu peur alors, parce que bon, il y a quand même beaucoup de tendances en ce moment à lisser, en fait. Enfin, il y a eu la polémique autour des nouvelles éditions corrigées de Roald Dahl pour que ce soit plus politiquement correct, entre guillemets. Enfin, voilà. Mais autant pour moi, je suis d'accord avec certaines réécritures qui peuvent être intéressantes. Autant là pour Roald Dahl, je trouve qu'on perd. Moi j'espérais que le film reste quand même dans cette vibe là, et j'ai été agréablement surprise, parce que, et même par rapport au film en fait, le film de notre enfance, c'est plus sombre, c'est vraiment encore plus dans le côté. Alors il y a un choix, il y a une d'écriture qui fait que c'est beaucoup centré sur le trauma de Mathilda, en fait. C'est vraiment traité son pouvoir et la manière dont elle, son rapport à son pouvoir, c'est vraiment tout traité autour de la manière dont elle a de gérer ses traumatismes. Et donc, sans que ce soit explicite, mais c'est quand même presque explicite, quoi. L'image est très, très appuyée. J'ai trouvé ça intéressant, même si, du coup, c'est dark. Il y a des passages qui sont vraiment relativement durs, on va dire, malgré les chansons. Et du coup, les chansons, pareil, c'est... Les enfants, ils sont durs, quoi. Et c'est moins mignon que le film, que la précédente adaptation. Les morceaux de musique sont top, franchement. Alors après, c'est des enfants qui chantent, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde. C'est quand même un type de chanson très avec des enfants qui chantent en même temps.
Ça fait chorale.
Voilà, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais alors pas forcément chorale, hein, c'est vraiment Mais bon, enfin, je sais que les enfants qui chantent, c'est pas pour tout le monde. Mais je trouve que voilà, il y a des morceaux qui sont super, les chorégraphies sont incroyables. Il y a vraiment des tableaux géniaux. Le fameux tableau du gâteau au chocolat, pareil, je l'appréhendais un petit peu, mais je l'ai trouvé assez fort pour le coup. Moins malaisant que le film, que le précédent film, et plus, enfin, il est, il y a un twist quoi. Enfin, tu verras, mais il y a un twist qui fait que je t'ai trouvé ça pas mal. Après, il y a eu quand même des polémiques autour de ce film parce que il y a Emma Thompson aussi dans ce film qui fait l'affreuse directrice Le Gourdin assez méconnaissable puisqu'elle
est ça je comprends toujours pas que c'est ça
le problème. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un fat suit, en fait, parce que la caractéristique de Le Gourdin, c'est pas forcément qu'elle soit grosse, c'est qu'elle soit hyper baraque, en fait, puisque c'est une ancienne athlète, lanceuse de poids, lanceuse de marteau, je sais plus. Et du coup, certes, elle est dans un costume qui la grossit, mais qui la rend hyper baraque aussi. Donc, moi, je l'ai pas forcément, c'est une transformation physique. On aurait pu prendre une actrice qui était plus proche au naturel de ce type de physique, et plutôt que de prendre Emma Thompson qui est toute fine et de la mettre dans ce type de costume. Mais voilà. Après, ça reste pareil. Mais c'est la grossophobie, elle est présente à fond chez Roald Dahl aussi. Donc voilà. C'est le choix de rester fidèle à cet aspect-là qui passe un peu moins maintenant. Mais voilà, j'ai quand même apprécié le film. Il y a des ajouts par rapport au livre que j'ai trouvé chouette. Franchement, c'est une bonne surprise. Je savais pas du tout si ça allait me plaire, mais ça m'a bien plu.
Bah, sur Netflix, moi, j'ai vu des choses, mais en mois de mai. Donc, ce sera au prochain épisode. Et on peut passer à Disney+. J'ai rattrapé un pain perdu sur Disney+. Un film qui était passé au cinéma et que j'étais déçue d'avoir raté parce que vraiment, en fait, c'était assez perturbant parce qu'il me tentait et en même temps, j'avais l'impression que ça allait être la comédie loufoque qui était sympa mais sans plus. Et du coup, j'avais pas été le voir. Et en fait, belle surprise, il s'agit de Free Guy qui est...
J'avais pas capté que c'était sur Disney+. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était sur...
Non, c'est sur Disney+. Mais... Et c'est marrant parce qu'il date de 2021. Donc, il y a de plus en plus de films. Je crois que la chronologie des médias a vraiment changé. Et on le voit en application. Et je pense à l'autre film dont je parlerai sur Netflix la semaine prochaine. pareil, c'est... Le film date de 2022 et est déjà sur Netflix aussi. Donc voilà, bref, Free Guy, c'est un film avec Ryan Reynolds. Je pense que vous devez peut-être voir cette superbe affiche de ville en feu avec Ryan Reynolds tout sourire et sa chemise bleue. Et en fait, on est dans un monde... on est dans un jeu vidéo. Et Ryan Reynolds, c'est un PNJ. Donc les personnages non jouables, je crois que ça se dit comme ça. Donc il fait tous les jours la même chose. Et on a les joueurs qui, eux, sont différenciés parce qu'ils ont leurs lunettes de soleil et ils font plein de choses dans la ville. Et puis on a les PNJ qui font toujours les jours la même chose. Donc c'est un peu le jeu, il me fait un peu penser à GTA, quoi. Donc les joueurs détruisent tout, font des cambriolages, volent des voitures, tapent des gens, etc. etc. Et puis du jour au lendemain, Ryan Reynolds, c'est un peu une vibe aussi, Truman Show, va se rebeller et va prendre des lunettes de soleil et va se passer plein de choses, va prendre son destin en main.
Je savais pas que c'était ça le pitch, mais du coup c'est le même pitch, mais version beaucoup moins sérieuse de Westworld, en fait.
J'ai pas vu Westworld. Donc du coup c'est hyper sympa et en fait il y a tout à côté, en fait on suit et ce jeu vidéo et à côté la partie création du jeu vidéo, dans le sens où pas au niveau de la création mais l'entreprise qui l'a créé. En fait il y a eu des petites magouilles, des petites choses pas très louches qui ont été faites et du coup une fille qui va jouer dans le jeu pour essayer de trouver des indices et qui va se faire équipe avec Ryan Reynolds, avec Guy, enfin, et c'est hyper sympa. Il y a aussi Taika Waititi comme acteur qui est super, Jodie Corner, Dwayne Johnson, petits rôles. Enfin, et c'est vraiment top. C'est un univers, ouais, vraiment geek. Il y a plein de petites refs à droite à gauche. C'est très très drôle. Et je m'attendais pas à ça, vraiment. Ça a été une hyper belle surprise. Et vraiment, je le recommande à 1000%.
Ouais, ça donne envie, franchement.
Moi, je pense qu'il va te plaire, vraiment.
Je savais pas que c'était ça. Mais ouais, mais même là, l'autre intrigue là dont tu parles, c'est vraiment Westworld, en fait. Mais la version débile de Westworld. Enfin, bah, débile, mais
comédie. Ouais, comique, quoi, comédie, ouais. Donc voilà, je recommande ce film.
Un film qu'on a vu toutes les deux, tout récemment.
Ouais.
On savait pas si on devait le mettre dans cet épisode ou le prochain. Mais bon, c'est sorti fin avril, donc on va dire que ça compte. C'est une version, une énième adaptation live de Peter Pan. Donc ça s'appelle Peter Pan et Wendy. Alors je crois que c'est... comme c'est Disney, c'est présenté un peu comme une version live de leur dessin animé, mais bon, c'est... On peut aussi le voir comme une réadaptation du livre. Hein. Enfin,
oui, parce qu'il y a des passages du livre qui ne sont pas dans le dessin animé.
Ouais, mais bon, c'est quand même, il y a quand même des références au dessin animé avec la musique.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Non, totalement. Ouais, mais c'est totalement un live action, hein, ils le vendent comme ça.
Oui.
Mais ils ont effectivement, bah, comme les autres live action, ils ont repris des éléments des contes. C'est là, ça. Ils ont repris des éléments du livre pour l'enrichir un peu.
Ouais. Donc, on l'a vu toutes les deux, on n'a pas exactement la même avis.
Ouais.
Mais après, on n'a pas le même rapport à Peter Pan à la base, je crois.
Oui.
Donc, ça compte, je pense. Moi, je Peter Pan. Alors, le dessin animé, bon, c'est un dessin animé que j'ai vu beaucoup, gamine, tout ça, que j'aime bien. Mais moi, je suis surtout fan de la version de 2003, la version filmée qui avait rien à voir avec Disney, mais de 2003, et évidemment Hook, un peu plus ancien avec Robin Williams. Mais moi, c'était surtout celle de 2003 que j'ai beaucoup vue et qui m'a beaucoup marqué et qui m'avait motivé aussi à lire le livre. Donc du coup, je la compare forcément à cette version-là, puisque c'est ce qui est le plus proche au niveau vibe, puisque Hook, c'est quand même...
C'est un style différent, c'est une autre histoire. C'est des années plus tard, c'est voilà.
C'est pas une adaptation du livre, quoi.
Mmh.
Et effectivement, les premières scènes, j'avais vraiment l'impression de revoir le Peter Pan de 2003. Hein. Ça ressemble énormément dans l'esthétique, etc. Après, par contre, dès que c'est au niveau...
Même au niveau de l'histoire, il y a effectivement les tout débuts, c'est vraiment... T'as l'impression d'un copier-coller, ouais.
Ouais, mais en même temps, c'est le bouquin, hein. c'est la même chose.
Oui, bien sûr.
Mais après, par contre, ouais, dès que c'est au pays imaginaire, là, il y a le film Peter Pan et Wendy a sa propre identité qui est différente... de Disney, qui est différente des autres adaptations. Donc ça, c'était intéressant d'avoir quelque chose de différent, quand même. Mais voilà, ouais, j'ai pas retrouvé le charme que j'avais dans l'épisode, dans la version précédente, notamment visuellement. J'ai trouvé que c'était, bon, c'est un choix, mais que ce soit très, très neutre au niveau des couleurs. Il y a peu de couleurs. Ils sont sur une île, comment dire, c'est une île, c'est un caillou, quoi. C'est, enfin, il y a rien sur cette île. Tu vois, quand ils arrivent et que c'est une île pelée, enfin, un peu comme une île, je sais pas, au large de l'Irlande, tu vois. C'est pas une île, c'est pas l'île magique, en fait, je trouvais. Mais après, bon, on a des endroits qui sont assez cool, hein, l'endroit des enfants perdus, il est assez chouette, le design, quand même. Mais voilà, après, c'est surtout, des interprètes que j'ai pas trouvé totalement au niveau. Après, je crois que tu reviendras dessus, mais ce qui est cool, c'est quand même, c'est la réécriture des personnages féminins. On a éliminé les rivalités toxiques entre Clochette et Wendy, ou Wendy et Lily la tigresse. Donc ça, j'ai trouvé ça
cool. Wendy, les sirènes. Enfin, Wendy et tout le monde,
sirènes,
quoi.
Ouais. Ouais, les sirènes, elles sont, on en voit pendant un shot, mais elles sont pas vraiment présentes, les sirènes dans le film.
En même temps, à part être jolies, elles étaient pas vraiment présentes non plus dans le dessin animé, ça servait à rien, quoi, entre guillemets. C'était juste vraiment pour la touche magie, quoi.
Bah après, quand même, du coup, en réécrivant tout ça, ils ont quand même éliminé pas mal du côté un peu... alors certes, c'était dommage que les personnages féminins soient réduits à des traits un peu négatifs autour de la jalousie, etc. Mais ça leur donnait quand même plus Enfin, Clochette, par exemple, moi, je l'ai trouvée un petit peu... Elle n'a pas d'histoire, en fait, dans ce film. Elle est... À part le « Ah, est-ce que Wendy va me comprendre ou pas ?» Mais au final, elle n'a rien à lui dire non plus. Enfin, c'était...
Ouais. Mais oui, bon. Non, ça, c'est vrai. Ils auraient pu réécrire quelque chose. Mmh. Après, moi, je préfère qu'ils aient rien mis que qu'ils aient gardé ce qu'il y avait avant. Moi, j'ai beaucoup aimé... Enfin, après, je ne suis pas une grande fan de Peter Pan. En fait... J'ai vu beaucoup le dessin animé petite, mais parce que j'aimais beaucoup cette espèce de pseudo histoire d'amour qui n'existe pas du tout en fait entre Peter et Wendy. Mais c'est parce que j'avais ce côté où effectivement, quand à chaque fois la fille est en détresse et que Peter vient la sauver, je trouvais ça trop mignon. Adulte, je regarde, je trouve ça, voilà quoi. C'est inutile, c'est nul, c'est franchement Wendy est juste réduite à ça et ça m'énerve. Mais quand j'étais petite, j'aimais bien juste à cause de ça. Mais adulte. Et même ado, Peter Pan, je l'ai toujours trouvé hyper insupportable dans le dessin animé. Je trouve qu'il a aucune émotion, il est imbu de lui-même, il est chiant, il est pas attachant et je l'aime pas du tout, vraiment.
C'est un sale gosse. Hein.
C'est vraiment un sale gosse, mais du début à la fin. J'ai adoré celui de 2003. T'as dit 2003, 2006, je sais plus, 2003. J'ai adoré celui-là, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et quand ils ont annoncé il y a longtemps la version Peter Pan et Wendy en live action, tout de suite, je me suis dit, ça va être nul parce que j'adore celui-là et je venais de le revoir il y a pas longtemps. Et je me suis dit, ok, c'est mort. Enfin, ils ont fait déjà un film qui est quasi parfait, ils y arriveront pas. Et en fait, quand je l'ai vu là, le film, j'ai une petite mémoire, donc j'oublie très vite ce que j'ai vu. J'avais plus trop de souvenirs du film de 2003, à part le début. Mais j'avais très peu de souvenirs, j'avais quelques petites scènes et c'est tout. Donc je l'ai pas du tout comparé en le regardant. Je l'ai vraiment surtout comparé au dessin animé que je connais mieux. Et comme je l'ai préféré vraiment au dessin animé de loin, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que, effectivement, bah, toutes ces rivalités, c'était bien qu'ils les aient enlevées, même si, comme tu le dis, hein, ça aurait mérité un rôle un peu plus important. Après, j'ai trouvé que Lily la Tigresse avait quand même un rôle un peu plus important et c'était cool. J'ai bien aimé les messages qu'il y avait derrière sur le côté où bah non, tu peux pas faire tout seul, t'as besoin de personne, t'as besoin de tes amis et que la première partie et que c'était nulle part ça dans que Peter Pan ne vole pas à un moment. Je sais plus non. Dans 2003.
C'est pas qu'ils volent pas, mais c'est, enfin, y a quand même ce doute de est-ce qu'il est mort ou pas, tout ça. Et puis, il y a le côté aussi, enfin, c'est plutôt autour de, non, mais il a toujours le pouvoir de voler, mais c'est plutôt son lien Clochette, puisque c'est Clochette qui est.
Oui, non, je me souviens. Mais là, le fait, tu vois, qu'il perde ce pouvoir et qu'il, enfin, j'ai trouvé que ça apportait quand même quelque chose, j'ai bien aimé, et je l'ai trouvé beaucoup plus attachant, en fait, ce Peter Pan. Je l'ai trouvé, j'ai pas trouvé que forcément qu'au niveau de l'acteur c'était waouh, exceptionnel ou quoi, mais au niveau de l'écriture du rôle, je l'ai trouvé très mignon. Un sale gosse au début, mais tu le comprends un peu, et puis tu vois toute la partie où il dit, bon on spoil un peu, mais c'est Peter Pan, enfin comment tu veux, enfin, voilà. Toute la partie où il dit, bah c'est une aventure, je bats toujours Crochet, en fait c'est comme ça, et puis à la fin quand effectivement il bat Crochet le bat, et qu'il est là, mais en fait j'ai cette aventure, je l'aime pas, et je l'ai trouvé tellement mignon, tu vois, et que moi j'ai vraiment bien aimé ce film. Alors oui, il y a beaucoup moins de magie, effectivement, mais sur le coup ça m'a pas dérangée. Les images sont assez sombres, alors peut-être qu'au cinéma ça m'aurait posé problème parce que j'aurais aimé peut-être plus de paillettes, etc. Plus, mais là sur Disney Plus chez moi ça m'a pas du tout dérangée non plus. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai trouvé ça top. Et je pense que tous les avis genre vraiment hyper négatifs, c'est pourri, c'est nul, vraiment c'est acheté à la poubelle et tout, c'est peut-être des gens qui sont beaucoup attachés au dessin animé ou à la version de 2003 et qui ont du mal à le prendre comme un film indépendant à lui tout seul. Parce ouais. qu'il a des défauts, hein, c'est clair, mais il a quand même aussi de belles qualités et c'est pas un film complètement nul à acheter du tout.
Non, il est pas. Moi, même si clairement je le mets en dessous des autres films... Enfin, peut-être, voilà, après le dessin animé, maintenant, enfin, je sais pas si on peut vraiment, il est trop vieux le dessin animé pour, je pense, et un peu dépassé pour qu'on puisse le comparer. Mais voilà, en tant que tel, il est pas raté, mais, enfin, après, moi, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage de, enfin, Peter Pan, effectivement, il est plus attachant, entre guillemets, enfin, plus attachant. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé, spécialement, enfin, il est mignon, en fait. Il est gentil. Et Peter Pan, il est pas gentil, normalement. Enfin, en fait, voilà, encore une fois, tu vois, c'est un peu comme quand on parlait de Roald Dahl et du côté un peu méchant. C'est vraiment, et le livre est mille fois pire que toutes les adaptations qu'on a eues, hein, parce que vraiment, il est cruel, Peter Pan, dans le livre. Et les enfants perdus sont pas... Enfin, il y a des choses un peu plus incisives. Et du coup, ça m'a un petit peu manqué, même si j'ai pas envie forcément de voir un Peter Pan cruel, mais je l'ai trouvé un peu trop aplati, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais c'est après il y a la réécriture de Captain Crochet aussi là, qui est interprétée par Jude Law, que j'ai trouvé pas inintéressante. Mais j'avais eu l'occasion de le dire là sur le Discord, je préfère le crochet de 2003 encore une fois.
Ouais,
et
c'est ce qu'ils en pareil, ont fait, mais...
il est beaucoup plus problématique hein, dans 2003. Il est creepy comme pas possible dans la relation à Wendy. Enfin, c'est très très gênant hein, dans l'épisode dans le 2003. Mais là, Jude Law, il a peut-être l'occasion de voilà d'avoir une ou deux scènes vraiment sympas, mais ça va pas totalement au bout, je trouve, de et c'est pas ma meilleure là je veux pas spoiler, mais du coup c'est pas ma meilleure interprétation que je préfère dans ce que ça veut dire, etc.
Ouais,
même si c'était
dire.
Intéressant, franchement il y avait quand même un message derrière, c'est pour ça que je trouve qu'il est pas acheté quand même, le film.
Non, ouais,
il est pas vide, il y a des choses, quoi.
Moi, tu vois, ce que j'aime bien dans ce film, c'est quand je l'ai vu, je me suis dit, tu vois, si j'ai des enfants un jour, je montrerai pas forcément tout de suite le Peter Pan dessin animé, parce que je le trouve beaucoup trop problématique sur plein de sujets, que ce soit les Indiens, les rôles des femmes, enfin, sur plein de trucs, ça me tique maintenant. Autant il y a des dessins animés où effectivement il y a certaines représentations où c'est un peu tiré par les cheveux, ou par exemple La Belle et le Clochard, Les Chats Siamois, tu vois, j'en parlerai à si je le montre à un enfant en lui expliquant que voilà Les Chats Siamois, enfin. Tu vois, tu peux maintenant Disney Plus, ils mettent une petite affiche, enfin avant le film, en disant faites attention, il y a des stéréotypes, des préjugés, machin. Autant il y en a certains, oui, tu peux expliquer à un enfant. Autant Peter Pan, il y en a tellement que tu vois, je le montrerai pas tout de suite. Je pourrais pas à mon gamin de 6 ans le montrer, c'est impossible pour moi. Et du coup, cette version-là, enfin la version de 2003, je la trouve plus adulte. Donc pareil, à un gamin de 6 ans, tu peux pas lui montrer cette version-là.
Ouais.
Oh, il y a des passages quand même un peu. Pas 6 ouais. ans, tu vois, 8-10 ans. Mais cette version-là, je me dis, bah, pour un jeune enfant où t'as envie de lui faire découvrir l'univers de Peter Pan, ça match. C'est sympa. Y a toute l'histoire, c'est aussi en ça que je me suis dit, c'est un film qui est quand même assez réussi, tu vois.
Ouais.
Mais bon.
Je suis d'accord. T'en es déjà à une heure.
On est déjà à une heure. Il faut qu'on parle moins. Mais sur les autres, je pense que je parlerai moins, moi. Déjà, sur le prochain film, je vais être très rapide, puisqu'il s'agit, c'est également sur Disney+, de Un bal pour Harvard, qui s'appelle le Pom Pact. C'est typiquement la comédie romantique, un peu style Disney Channel, mais je crois pas que ce soit Disney Channel, qu'ils ont diffusé sur Disney+. C'est mignonné, c'est à regarder en faisant autre chose, mais il y a aucune alchimie entre parce que du coup il y a des histoires d'amour, hein. Il y a aucune alchimie dans les histoires d'amour. La morale derrière tout ça, bof, vraiment pas folle. Il y a pas de musique particulière, enfin vraiment. Je vous le déconseille, sauf si vous voulez effectivement regarder un truc style téléfilm M6 en faisant autre chose dans votre après-midi, qu'il n'y a rien d'autre qui vous intéresse, que vous avez tout vu. Mais sinon, vous pouvez passer votre chemin largement sur ce film.
Ok, tu vas nous faire gagner du temps. Ah, par contre, ouais, il y en a un que je crois que tu avais dit que je pouvais peut-être le récupérer dans ma dernière de tournée, mais ça, j'ai envie de le voir.
Ouais.
Tetris, c'est ça?
Tetris sur Apple TV, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup aimé ce film. J'avais hésité à le regarder parce que c'est compliqué et j'ai pas Apple TV et j'ai pas l'argent pour payer tous les films. Entre le cinéma, toutes les plateformes que je paye, c'est trop. Alors, je l'ai regardé effectivement d'une manière un petit peu détournée, je l'avoue. Et du coup, je te passerai cette version pirate, voilà. En fait, c'est un film qui parle de l'histoire du jeu vidéo Tetris, mais c'est pas un film comme Mario où on est dans le jeu Tetris. Hein. Mais c'est en fait comment Hank Rogers l'a découvert en 88. et il date voilà, de cette année-là, et a risqué un peu sa vie, enfin même beaucoup sa vie, pour essayer de récupérer les droits. Et donc on va découvrir toute sa rencontre avec le créateur du jeu, Alexei Pajitnov, et justement toutes ces magouilles de signatures, d'aller-retours, de... Oh, mais c'était une magouille, mais on se rend pas compte, quoi, c'est...
Mais rien que la bande-annonce, j'étais genre, waouh, ça me donnait trop envie.
Mais ouais, mais en fait, c'est vraiment un genre de thriller.
C'est avec Taron Egerton, que j'aime beaucoup.
Mais
en
oui,
plus.
Il est super dedans. Et en fait, c'est un film d'espionnage, on va dire, sur fond de guerre froide. Puisque bah, du coup, il y en a un qui est américain, l'autre qui est russe. Et c'est vraiment super sympa. On a l'impression que le scénario est un peu bateau et un peu ennuyant, mais pas du tout. C'est captivant. Et ça rend beaucoup hommage aux jeux vidéo des années 80. Et le jeu est monté, enfin, oh là, j'arrive même plus à parler. Le film est monté comme une partie de jeu vidéo, justement, avec des petites transitions en 8 bits, avec Player One, Player Two, enfin, c'est hyper sympa. Les chansons sont exceptionnelles. Il y a des chansons modernes dedans, il y a des chansons des années 80, il y a des chansons qui ont été remixées avec les sonorités du jeu. C'est vraiment super, super, et ça a été un beau coup de cœur.
Cool. Bon, ça me donne envie. J'ai envie de le voir.
Ouais. C'est dommage. Enfin, Apple TV, je pense que je vais finir par me.
Il y a de plus en plus de choses.
Parce qu'il y a... plus en plus de trucs. L'autre film que j'ai vu, je vais être assez rapide, c'est sur Prime. J'ai vu un film au mois d'avril. Alors, j'ai vu des films au mois de mai, donc prochain épisode. Il s'agit de Opération Fortune. Je suis tombée dessus totalement par hasard parce qu'en fait, j'étais persuadée que c'était un vieux film de Guy Ritchie qui a été mis sur Prime, alors qu'en fait, non. C'est un film original Prime de Guy Ritchie. Et j'étais assez surprise, parce que d'habitude, il passe au cinéma, et c'est un grand réalisateur, et que je m'attendais pas à ce qu'il soit sur Prime. Et donc, ça s'appelle Opération Fortune Russe de Guerre. Et donc, on retrouve le casting un peu de Guy Ritchie, hein, Jason Statham, Hugh Grant. On retrouve aussi Josh Hartnett, que je n'avais pas reconnu. C'est quand j'ai regardé après un petit peu, parce que je trouvais le film sympa, et donc je regardais un peu sur Wikipédia, je fais « mais non, c'est pas possible !» Alors, je sais pas, c'est assez impressionnant. En fait, le film, il aurait dû sortir en salle, déjà, de base, et en 2022, et c'est un moment où il y a eu la guerre en Ukraine, et le problème, c'est qu'il y a des criminels ukrainiens dans le film, donc ils ont trouvé que c'était un peu trop de mauvais goût de le sortir maintenant au cinéma. Donc ils ont attendu, et donc voilà, il est sorti en 2023, en vidéo à la demande aux États-Unis, sur Prime en France, et dans le reste du monde, ils l'ont mis par contre en salle. Donc voilà pourquoi il est sur Prime. C'est voilà encore un film d'espionnage. Le scénario est quand même assez classique. Hein, voilà, il y a quelques rebondissements comme un scénario de film d'espionnage, mais c'est pas révolutionnaire. Par contre, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Je trouve il y a un vrai humour british, un peu cynique, un peu humour noir à des moments qui passe bien. Et du coup, tous les acteurs sont sympas. Tu te laisses prendre au jeu. T'as envie de voir comment ça se termine. J'aime beaucoup Guy Ritchie, son style, donc ça pouvait que me plaire. Et effectivement, je suis pas déçue.
Non, mais cool. Non, ça, je pense que. Ça, je pense que je regarderai parce que j'aime bien Guy Ritchie aussi, j'aime bien son style, donc je pense que ça peut être sympa.
Ouais, c'est top.
Alors, on a vu pas mal de pain perdu ce mois-ci. Alors moi, surtout, en fait, je me suis fait un espèce de marathon de rattrapage sur Quentin Tarantino, puisque je crois que je vous l'avais teasé dernièrement, mais je suis allée voir Quentin Tarantino au Grand Rex lors d'une soirée spéciale où il venait présenter son bouquin et parler, un grand entretien et tout. Et du coup, j'aime beaucoup Quentin Tarantino, mais j'ai vu que ses films relativement récents, enfin depuis Inglourious Basterds, j'avais vu aucun de ses premiers films, enfin toute la première partie de sa filmographie, j'en avais vu aucun. Du coup, je les ai presque tous rattrapés et il m'en manque plus qu'un, Boulevard de la Mort, mais sinon, j'ai revu tous les Bravo. Autres. Donc, c'est-à-dire Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, volume 1 et 2, et Jackie Brown. Voilà, donc, alors, certains sont sur Netflix, certains sont sur Prime, et d'autres sont nulle part, notamment Kill Bill, volume 1 et 2, enfin, à moins qu'il arrive ou qu'il soit déjà arrivé. En fait, c'est des films qui sont pas, enfin, ils appartiennent pas à des gros studios, donc, du coup, les droits de diffusion n'arrêtent pas d'être... de passer d'une main à l'autre, notamment en France, mais je pense que c'est pareil dans d'autres pays. Du coup, faut faut chercher, hein. Je peux pas vous dire à 100% Reservoir Dogs est en ce moment sur Netflix, je suis pas sûre, je crois que je l'ai vu sur Netflix, mais peut-être qu'il est parti sur Prime, enfin voilà. Donc cherchez, mais sinon c'est le genre de films que vous trouvez très facilement dans les en médiathèque. Moi, Kill Bill, je les ai récupérés dans la médiathèque à côté de chez moi pour les voir. Donc voilà, alors c'était très cool de revoir tous ces films. Donc j'en parle en package, hein, comme je vais pas parler de tous les films individuellement, mais Reservoir Dogs, j'ai pas du tout été surprise, parce que même si j'avais pas vu le film, j'en avais vu des longs extraits lors d'un documentaire ou quoi, donc du coup je savais exactement à quoi m'attendre, et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, et les dialogues sont super, l'ambiance huis clos était assez assez prenante, enfin j'ai trouvé ça vraiment bien bien fait, quoi. Pulp Fiction, c'était un de ceux qui était un de mes gros trous dans ma culture cinématographique quand même. Et donc j'avais très très hâte de le voir. Et franchement, c'était vraiment vraiment très très fun. Avec, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi segmenté en plein de petites histoires qui s'enchaînent et qui n'ont pas forcément de lien ou qui se croisent, etc. Donc j'ai pu enfin voir dans contexte des scènes cultes, quoi, que je connaissais mais que j'avais jamais vu dans leur contexte. Donc ouais, enfin je crois que je l'ai plus aimé Pulp Fiction que Reservoir Dogs, par exemple. Kill Bill volume 1 et 2, alors pareil, un gros je les ai enchaînés les deux dans la même journée. J'ai fait un vrai marathon. Lacune aussi de ma culture cinématographique que j'ai pu rattraper. J'ai préféré le volume 2 au volume 1, clairement. J'ai trouvé le volume 1, une séquence un peu trop longue, une séquence de baston qui était trop longue. Et voilà. Par contre, le volume 2, il m'a vraiment pris. Il y a des moments où j'ai vraiment été pris par l'angoisse ou par le stress et par... il y a des scènes que je... Là, pour le coup, j'ai eu plus de découvertes. J'avais moins vu d'images de Kill Bill. Donc, ça m'a vraiment... J'étais hyper accrochée.
Tu sais que Kill Bill 2, je l'ai vu au cinéma et c'est entre autres qui a déclenché ma claustrophobie. Hein.
Tu m'étonnes.
Vraiment, c'est là où... Alors, je ne sais pas si ça a déclenché ou si je me suis rendu compte que je l'étais, mais ça a été horrible.
Ah ouais, dans cette séquence, je veux pas spoiler pour ceux qu'on jamais vu, même si je sais pas si on peut spoiler qui maintenant, mais non, effectivement, il y a une scène qui est hyper hyper impressionnante à ce niveau-là. Et par contre, mais qu'est-ce qu'il torture ces personnages et ces acteurs, c'est assez incroyable. Mais vraiment, ouais, je pense un petit coup de cœur quand même pour Kill Bill volume 2, que j'ai trouvé vraiment vraiment excellent. Et puis, peut-être une séquence de Kill Bill 1 à la fin, quand même, un duel qui est très, très beau à voir. Et Jackie Brown, qui, alors là, pour le coup, j'en avais beaucoup moins entendu parler. Et c'est très différent dans le style des autres. Il y a beaucoup moins de violence, notamment, que tous les autres films que j'ai vus de Tarantino. C'est-à-dire tous les autres films de Tarantino, à part Boulevard de la Mort. Mais vraiment, une histoire hyper intéressante. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Jackie
Brown.
Non,
c'est un des seuls que j'ai pas vu, je crois. Ouais, tous les autres j'ai vu, donc ouais. C'est le seul que j'ai vu.
Bah franchement, très sympa, avec un personnage principal, donc Jackie Brown, qui est une femme hôtesse de l'air. Là, du coup, je raconte un tout petit peu plus, parce que je pense qu'il est un peu moins connu. Mais en gros, on suit une hôtesse de l'air qui se retrouve impliquée dans des magouilles de trafic et c'est vraiment un principe hyper intéressant où en fait elle se retrouve un peu piégée entre d'un côté la police et d'autre côté les trafiquants, les gangsters en gros, et elle monte un peu elle tire son épingle du jeu en jouant double, triple, quadruple jeu, et en s'en sortant, enfin, en essayant, il y a un peu des plans à plein de niveaux qui se mettent en place, mais sans le côté très, donc ça, c'est des trucs qu'on peut retrouver chez Tarantino, mais sans le côté gore et très violent, et c'est plus pas psychologique, mais dans l'intrigue, en fait, que dans le...
D'accord.
Voilà, et j'ai trouvé ça très cool, les personnages, notamment elle et puis un des autres personnages qui était assez attachant, et avec des scènes pareil avec pas mal de suspense et de tension, mais ouais, j'ai bonne surprise. Alors peut-être pas, il est peut-être pas aussi impressionnant que les autres, mais je l'ai vraiment passé un bon moment devant.
Et il est sur une plateforme, lui?
Oui, je crois que Jackie Brown, je l'ai vu, alors soit sur Netflix, soit sur
D'accord.
Prime,
l'un des deux. Je regarderai. Je l'ai vu sur Netflix. Non, je regarderai.
Ouais. Donc voilà, je me suis mis à jour. Il n'y a plus que Boulevard de la Mort qui, je crois, est sur Netflix, que j'ai pas, du coup, je n'ai pas vu. Mais bon, bah, ça confirme que j'aime beaucoup Tarantino. Ouais. Puis en plus de l'avoir vu en vrai.
Ah, ça, c'est trop cool.
C'est. Ouais, franchement, c'est quelqu'un d'hyper charismatique et hyper cool à écouter et tout. Donc ça donne encore un peu plus de relief quand on voit les films de quelqu'un qu'on a écouté pendant 2 heures parler. Ouais. Enfin, c'est cool, quoi. Enfin...
Carrément. Eh bien, moi, de mon côté, niveau pain perdu, j'ai eu la chance de voyager et dans l'avion, bah, il y a plein de films. Donc, j'ai essayé de me forcer à rester réveillée un minimum pour voir des films. Alors, j'en ai vu 3 à l'aller et 2 au retour. Et le retour est au mois de mai, donc je vais en parler que des 3 à l'aller. le premier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il s'agit du Chapeauté 2, que j'étais dégoûtée d'avoir raté au cinéma, et je savais qu'il fallait que j'aille le voir. Et c'est trop marrant parce que pour la petite anecdote, j'ai un élève qui est assez, enfin on va pas dire timide, mais qui parle pas trop, il rencontre moins au prof. Et quand on a parlé cinéma à un moment, il m'a dit « j'ai vu le Chapeauté 2, il est trop bien ». Et il m'a dit « le loup, il fait vraiment peur ». Et là je me suis dit « c'est trop marrant que tu aies qu'un ado te sorte ça » et que je me suis dit « moi faut vraiment que je le voie ce film ». Et effectivement, j'ai adoré déjà l'animation, mais waouh quoi, ça m'a fait penser à Spider-Man Into the Spider-Verse. Et c'est incroyable, c'est vraiment mon style d'animation parce que je suis captivée, je regarde partout, c'est génial.
Ouais. Oh, petit aparté, j'ai vu au cinéma la bande-annonce du prochain Spider-Man avant Les Gardiens de la Galaxie, donc je parlerai le mois prochain. Magnifique, incroyable. Oh, franchement, rien que la bande-annonce, t'es genre trop hâte.
Tu sais que moi, je regarde pas les bandes-annonces quand je sais que je vais voir les films. Donc, comme je savais que j'allais le voir, je l'ai pas regardé. Bon, après, si la passe au ciné, je la vois. Hein. Bien sûr, je ferme pas les yeux, mais non, je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment trop hâte aussi. Et donc, voilà, le Chapeauté 2, l'animation incroyable. J'ai adoré l'histoire aussi. Vraiment avec. Mais tu vois, c'est ce que je parlais par rapport à Mario. Là, il y a une vraie morale. Il y a une vraie. Il y a quelque chose, quoi. Il y a la profondeur. Il y a une histoire avec des émotions, des sentiments, des choses un peu plus complexes. Et qui parle pas forcément aux enfants à première vue, enfin certaines choses si, mais d'autres non. Ce rôle du loup, mais oh là là, avec la petite musique dès qu'il apparaît, c'était juste incroyable. Alors avec Tib, on pensait que il n'existait pas, que c'était j'aurais bien aimé ça, tu vois, ça aurait fait vraiment un petit twist. Après, je lui ai dit au bout d'un moment, ça reste quand même un film pour enfants, je pense qu'ils auraient peut-être pas forcément compris. Donc nous, on a compris toute la symbolique derrière ce loup, même s'il existe, et du coup c'est quand même
après, il existe, mais c'est plutôt une c'est vrai qu'on spoil un peu la fin, mais c'est plus un concept qui est incarné,
c'est ça, c'est incroyable. Et franchement c'était un beau coup de cœur. Je l'ai vu en VF, ce qui fonctionnait très très bien. Et vraiment, chapeau quoi. Chapeau. Oh, j'ai le mot pourri. mais voilà, bref, j'ai beaucoup beaucoup aimé.
Ouais, du coup, ouais, petit. Il était nominé aux Oscars.
Petite déception, hein. Franchement, il aurait mérité. Parce que en plus, c'est quoi? C'est Pinocchio qui a gagné?
Oui, c'est Pinocchio que j'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu et. En fait, c'est juste tu récompenses uniquement la technique de stop motion. Et effectivement, Guillermo del Toro, il a fait un travail de dingue sur ce film. Et quand tu regardes le making of à côté, ouais, tu te dis waouh, c'est beau, la technique, c'est incroyable. Mais pour moi, le Chapeauté était au-dessus. Hein, je suis désolée. Donc bon, j'ai regardé également un film dont tu avais parlé, Le Petit Nicolas.
C'est le film.
Oui, je sais que c'est pas que Le Petit Nicolas, c'est Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Parce que je sais qu'il y a eu un film en live.
Avec Cadmera, tout ça.
Du coup, je savais pas si tu parlais de celui-là.
Non, c'est le récent, là. En fait, j'étais un peu déçue parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai pas vu la bande-annonce, hein. Mais j'étais persuadée dans ma tête que c'était un film qui mélangeait live et animation. Et que c'était, en fait, toute l'histoire des deux personnages, des écrivains, qu'aux auteurs, et serait en live, et qu'on voyait des coups en alternance les histoires du petit Nicolas et ce petit personnage. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'étais persuadée de ça. Et du coup, j'étais un petit peu déçue au début de voir que c'était full animation. J'ai trouvé ça mignon et attachant, Mais, il y a un mais, je suis désolée, je me suis endormie avant la fin, donc j'ai pas vu la fin. Parce que, ouais, je sais pas, ça m'a pas emportée. J'ai trouvé ça mignon, mais il y avait pas d'enjeu, en fait. Et je sentais que la fin allait être triste et que j'avais envie quand même de voir, voilà, ce qui allait se passer et de voir, et je savais que toi, ça t'a beaucoup ému, donc j'avais quand même envie de voir tout ça. Mais, pendant tout le film, j'ai pas senti d'enjeu, j'ai pas eu cette envie, chaque fois, de rester réveillée pour voir et je me suis endormie, j'ai pas vu la fin. Mais je pense que j'essaierai de voir quand même un jour. Voilà.
Non, mais après, en vrai, je pense que si je l'avais vu, voilà, dans l'avion, dans les mêmes conditions que toi, je sais pas si j'aurais, pareil, c'est le genre de film devant lequel j'aurais pu piquer du nez aussi dans certaines conditions. Là, je pense que c'était plus,
ouais. Les conditions, les meilleures conditions. Les
conditions pour le, ouais. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des parties, ouais, dans la deuxième partie du film qui sont très touchantes, et puis le message derrière est touchant, mais...
Ouais, faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout, du coup. Voilà la morale de ça. Et le dernier film que j'ai vu, là, je suis restée accrochée jusqu'au bout parce que ça m'a choquée. J'ai mis un petit moment avant de m'en remettre. C'est La Nuit du 12, qui est sorti il y a un moment, mais il est repassé il n'y a pas longtemps en salle. C'était, enfin, en tout cas, vers chez moi. C'est un film qui parle d'un féminicide qui a eu lieu, donc trigger warning, hein, je préfère le dire quand même, c'est une femme qui se fait brûler vive dans la rue en rentrant chez elle, une jeune fille, une adolescente, et du coup toute une équipe qui va essayer de trouver le tueur. C'est assez marquant, parce que c'est vrai que la première scène donc est assez, moi m'a un peu traumatisée au début, j'étais ouf. Et il y a une deuxième scène qui est horrible, c'est quand ils vont l'annoncer à ses parents. C'est déchirant, vraiment. Après, tout le reste du film, on est moins, voilà, on est moins pris à cœur. C'est vraiment juste ce début qui est dur, je trouve. Mais le film est vraiment hyper bien construit. C'est vraiment un film féministe, vraiment. Mais pas, voilà le message, on vous bourre, regardez, il faut que vous pensiez ça, etc. Mais je trouve que dans les dialogues, il y a certaines phrases qui sont mais marquantes. On en parlait sur le Discord avec Cédric. Moi, il y a des phrases qui me sont restées en tête des jours après, et pareil, et les mêmes pour lui, qui remettent les idées en place aussi, je pense. Je pense que tout le monde devrait voir ce film. Tu vois, sans trop spoiler, par exemple, cette fille a eu plein d'amants à droite à gauche, donc ils vont un peu tous les voir pour voir s'il y en a pas un qui, pour se venger, a fait quelque chose. Mais jamais ils partent sur le côté facile en mode bon bah elle a un peu cherché, elle va avoir vu tous les mecs qu'elle se tape. Jamais, c'est vraiment peu importe ce qui elle est, c'est les hommes qui ont fait ça, quoi. Et du coup le message derrière est assez incroyable, toute l'enquête est captivante, tu te prends au truc, t'as vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et je trouve que c'est un film vraiment vraiment à voir. Je suis un peu, j'en parlais sur le Discord, je suis un peu déçue dans le sens où pas du film hein, du tout, hein, mais il passait au Méliès avec le réalisateur et j'aurais beaucoup aimé entendre le réalisateur en parler. Même si, comme j'ai dit, ce film il a fallu que je processe un peu une fois après l'avoir vu, et je suis pas sûre que le voir en salle autour de plein de gens. Enfin, j'étais au cinéma, enfin j'étais dans un avion, donc il y avait plein de gens, mais je veux dire, le voir en même temps que plein de gens, et ensuite en parler tout de suite après, ça aurait été forcément une bonne idée non plus. Donc d'un coup, l'autre côté, je me dis, heureusement, peut-être que j'y ai pas été. Mais je pense que ça donne envie, ouais, d'en voir plus, de lire des choses, peut-être que sur le réalisateur, comment il en est venu, comment il a pensé son film. Et pour moi, c'est vraiment un film, effectivement, à montrer, alors pas aux jeunes enfants, mais à montrer aux hommes, aux femmes, voilà.
Enfin, j'en avais beaucoup entendu parler, c'est vrai qu'il avait fait quand même pas mal de, enfin, en tout cas, tous ceux que, enfin, j'avais eu que des avis positifs, hein, et assez marqués par ce film, donc, c'est vrai que tu confirmes ça, donc, c'est un film pareil que j'ai loupé quand il était au cinéma.
Mais, il est sur Canal, effectivement,
je sais, ouais, il est sur Canal, ouais. Et ouais, quand je viens de faire la recherche, je vois qu'il y a une séance, en Loire-Atlantique, alors c'est pas à côté de chez moi, mais ouais. Mais du coup, ouais, je sais pas, c'est un film qui a dû ressortir.
Je pense. Parce que je l'ai revu vraiment il y a pas très longtemps au cinéma et je me suis dit, tiens, est-ce que j'y vais? Et puis bon, j'ai pas eu l'occasion, mais comme tu l'as dit, il y avait plein de films là qui sortaient. Et c'est pour ça, je pensais vraiment, on en parlait tout à l'heure, en off, je pensais vraiment qu'il était sorti au début d'année 2023 et en fait, il est sorti il y a un an.
Bah en fait, il était sorti, enfin il était présenté au Festival de Cannes l'année dernière. Il était sorti dans l'été qui a suivi. Ouais. Donc ouais, bah encore un film à rattraper. J'espère un pain perdu, oui. Un de ces jours. Vous êtes rendu compte que on a fait presque une heure et demie d'épisode, on a parlé que des films, donc on peut pas vous garder pendant 3 heures, donc on va faire une petite pause et puis on va faire un deuxième épisode pour parler de toutes les séries qu'on a vu pas mal. ça prendra peut-être pas une heure et demie, mais j'annonce ça se trouve, ça va être le cas, j'en sais rien.
Faut mieux passer.
Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, mais évidemment vous allez pouvoir normalement très prochainement enchaîner sur l'épisode sur les séries, notre zapping série.
Ouais.
Donc à tout de suite.
À bientôt.